Moi, je me souviens au tout début de Devo, là, je te parle de 2012, 2013, 2014, notre logiciel phare qui s'appelle Remote Desktop Manager. J'avais un paquet de trafic qui rentrait de TV Remote, how to configure my TV Remote relié à la télévision, là. Fait que j'avais un paquet de trafic déjà, parce que ces volumes-là, en plus, que ce qui est, ce que je veux dire, ce qui est pervers là-dedans, c'est que souvent, quand c'est des trucs qui. Des keywords qui sont très consumers, je devrais dire. C'est sûr que les volumes de recherche explosent. En B2B, nos volumes de recherche à nous qu'on gère versus un volume de recherche pour le, on va dire, la population, le consommateur, c'est facilement, tu peux arriver facilement avec un mot-clé, un keyword qui vient doper tes chiffres de la mauvaise façon.
Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, bel échange avec Maxime Trottier de Devolution sur les KPI que Devolution suit dans leur entreprise. Donc Max nous ouvre encore une fois le rideau de comment ça se passe chez Devolution. On va entre autres parler de 6 KPI marketing, 6 KPI vente et 5 KPI au niveau du customer success et du support client. Donc, Max et moi, on a toujours une bonne jasette ensemble. Donc, on a décidé de livrer cet épisode en deux parties. Donc, la première aujourd'hui et la deuxième qui va suivre sous peu. Donc, avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast. Maxime Trottier, VP vente et marketing chez Devolution. Toujours un plaisir, Max, d'être avec toi. Je pense que c'est un de mes moments favoris à chaque mois de collaborer ensemble sur le podcast. Toujours des bons mots des gens qui nous écoutent. Merci d'être là, Max. Comment vas-tu aujourd'hui?
Mais ça va super bien. Les projets déboulent chez nous, puis en même temps, tout est au beau fixe de notre bord. Fait que non, très heureux d'être là aujourd'hui. Moi aussi, je te dirais que c'est, malgré nos horaires chargés, c'est le fun de prendre le temps pour se joindre à vous ici aujourd'hui avec toi, Joe, puis discuter un peu de plein de sujets au niveau de la business, puis partager un peu notre expérience, partager notre vécu, partager ce que je fais, ce qu'on fait ici chez Devo en même temps avec la communauté. Puis on en parlait avant d'entrer en onde, effectivement, des bons commentaires. Fait que c'est tout le temps le fun de voir aussi que les gens nous écoutent, les gens sont là, les gens commentent, les gens partagent. Fait que c'est super. Je pense que on est rendu, ben vous êtes rendu avec Pivot Podcast à une belle auditoire. On voit les chiffres, c'est super intéressant. Puis je vois un peu, je vous suis dans toutes sortes d'épisodes. Puis il y a une bonne, très bonne vibe autour de votre podcast. Félicitations.
Merci Max. Puis tu fais partie de la solution qui est une de nos valeurs chez OpenMind, mais tu fais partie de ça. Donc merci beaucoup de ta contribution. Toujours des bons feedbacks de l'auditoire autour. Et là aujourd'hui, on va avoir encore le privilège de voir comment ça se passe à l'interne, derrière les rideaux chez vous. On veut parler de KPI, on veut parler un petit peu de qu'est-ce que vous traquez comme métrique. On est conscient aussi qu'on est toujours coupable dans chacune de nos organisations, des fois, de pas être assez avancé à l'état ce qu'on voudrait être. Donc, j'imagine qu'en jasant ensemble, il va avoir l'état actuel d'aujourd'hui, mais tu vas probablement nous dire, écoute, Joe, il y a ça aussi qu'on pousse vers un idéal chez Devolution. Ça va peut-être enlever le sentiment de culpabilité et d'anxiété de tout le monde, de dire, bon, ben, il n'y a pas personne qui est parfait, mais au moins, on voulait savoir un peu là, qu'est-ce qui se passe chez Devolution, qu'est-ce que vous traquez comme KPI. Puis, on va essayer de le segmenter en peut-être trois catégories, côté vente, côté marketing, troisième catégorie, le côté support technique, customer success. Donc, déjà hâte d'avoir une vue de tout ça.
Il y a quand même plusieurs KPI qu'on va traquer ou qu'on peut discuter, qui sont reliés de très près aussi à l'aspect tout financier, RevOps dans vos entreprises. Là, évidemment, quand on parle de vente, on parle de revenus, donc les KPI qu'on va traquer au niveau les ventes aussi sont très fortement reliées souvent à l'aspect financier, évidemment. Puis chez nous, c'est un des aspects qu'on travaille beaucoup ensemble avec tout le département RevOps qui oversee les ventes et le département des finances chez nous travaille main dans la main dans le but d'avoir de travailler sur le même dataset, d'avoir les mêmes chiffres, puis ensuite d'avoir une bonne compréhension des ratios qui sortent au niveau financier, puis en quoi ça vient impacter nos opérations au niveau de la génération des revenus. Donc, c'est deux équipes qui travaillent main dans la main déjà en partant. Là, on peut déjà partir avec un peu ça, là, à quel point que tout ce qui est opération de vente doivent être proches du département finance. Donc,
et c'est un bon point que tu apportes, Max. Je l'ai dit dans l'intro, mais je le répète, si ça vous sonne un point d'interrogation quand on parle de RevOps, épisode 35, on démystifie ce concept-là et comment que ça a été implanté, entre autres, chez Devolution et comment ça les aide à accélérer leur croissance, à améliorer le côté satisfaction client. Donc, allez voir ça, épisode 35. Je commence avec une question quand même assez large, Max, par rapport à ça. Ça ressemble à quoi KPI chez vous? C'est quoi les routines? Parle-nous un peu, on ouvre les rideaux, puis comment qu'on attaque ça chez Devolution?
Oui, bien en premier, peut-être définir un peu la différence entre un OKR puis un KPI. Un OKR, un business que vous connaissez déjà, mais Objective Key Results, donc un peu le Objective and Key Results, ce que ça résume, c'est quoi votre target que vous voulez aller chercher? Puis un KPI, ça va mesurer sur la performance que vous avez pour atteindre ce target-là. Donc, c'est deux acronymes à séparer. Donc, un qui est fixé sur l'objectif, l'autre qui est fixé sur la performance pour atteindre cet objectif-là. Puis chez nous, ben présentement, on a trois grands départements au niveau marketing, vente et customer success ou service à clientèle, service client, support technique, qui sont hands-on avec les clients. Puis c'est des trois grands départements qui sont sous le RevOps. Ce que je veux dire par là, c'est toute la mécanique de comment on vient générer les revenus chez nous, puis comment que les trois départements marchent main dans la main. Donc, ce que je veux dire, c'est que les KPI qui entrent dans le funnel chez nous du RevOps sont reliés en grande partie au marketing, puisque c'est là la grande majorité de nos leads, de nos prospects. Viennent de nos sites web, viennent de nos campagnes qu'on fait au niveau du marketing. Donc, on est une entreprise qui est très inbound marketing. Donc, les premiers KPI qu'on doit traquer chez nous viennent du département marketing. Donc, ce qu'on parle, c'est grosso modo beaucoup de le trafic sur nos sites web, évidemment, les taux de conversion, le taux de marketing qualified lead qu'on envoie au sell par la suite. Puis tout l'aspect de click-through rate de nos différentes campagnes. Je sais, j'en déboule beaucoup, tu m'arrêtes quand tu veux, Joe, mais grosso modo, chez nous, les premiers KPI qu'on va suivre, c'est au niveau marketing, qu'on va traquer avec différents outils, dont Google Analytics, Google Search Console, SEM Rush qu'on utilise au niveau marketing pour venir aller chercher toute notre data. Puis présentement, on est en train de rapatrier l'ensemble de nos data centers ou data sources dans un data lake pour ramener toute l'information au même endroit, dans un même data center qui va nous permettre ensuite de connecter un outil, comme vous connaissez, Tableau, Power BI, pour se donner un outil de dashboard. Parce que présentement, les chiffres sont là, mais sont spreadés at large à travers différents départements, travers différents outils. Puis l'enjeu qu'on vit présentement, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir tous les mêmes dashboards au même moment avec la même donnée. C'est un peu ça le gros challenge qu'on a chez nous présentement.
Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est le cas dans la majorité des startups, l'information est décentralisée dans différents outils. Ça se traduit comment pour aller chercher cette information-là? Est-ce que vous avez des meetings une fois par semaine de regarder l'ensemble de l'information? Est-ce que c'est des push par email qui sont faits que vous regardez de manière décentralisée? Est-ce que manuellement, cette information-là est remise dans un fichier exemple Excel puis que l'équipe de leadership le regarde à un intervalle X? Je serais curieux pour la série de KPI que tu viens de me mentionner, là, comment ça fonctionne, la routine derrière tout ça ou l'implémentation d'aller chercher la donnée?
C'est une super bonne question. L'état actuel, c'est très décentralisé, comme tu l'as mentionné. Il y a une partie qu'on va recevoir par courriel. Il y a des rapports qui vont venir de Google Studio. Il y a des rapports qui vont venir de Salesforce directement. On a des rapports qui vont venir de différents outils chez nous qu'on utilise pour Par exemple, mesurer l'impact de nos campagnes marketing à travers tout l'aspect brand, par exemple, notre présence dans les médias, notre présence dans les différents forums. Donc, c'est vraiment pour l'instant une partie par courriel. Il y a une partie qui est encore faite de façon très manuelle, où est-ce qu'on doit aller chercher des rapports dans nos différents outils. On en a parlé dans d'autres épisodes, mais chez nous, Salesforce est dans notre CRM, donc on doit aller... Il y a une partie qui est automatisée, une partie qu'on doit aller voir selon les questions qu'on se pose en termes de gestion. Souvent, ce qui va arriver, très pratico-pratique, on va avoir des meetings, puis avant de prendre une décision d'affaires ou de dire, OK, allons confirmer notre gut feeling ou allons confirmer, voir un peu avant de prendre une décision, est-ce que les chiffres nous disent la même chose? C'est là qu'on va arriver à aller chercher ce data-là qu'on veut aller voir. Mais comme je te disais, c'est encore une manière très réactive selon la décision qu'on doit prendre. Et non pas proactif comme qu'on veut aller chercher, c'est-à-dire de voir le data puis ensuite acter en it ou prendre une décision sur ce qu'on voit en temps réel dans nos dashboards. Fait que c'est fait de manière, comme je te dis, plusieurs façons de le consommer en termes de email, d'aller manuellement dans les outils, mais aussi à travers les différents meetings qu'on a, à travers les différents départements que je viens de te mentionner. Donc, ça va se faire au courant des semaines et mois, mais il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de... Puis c'est un peu le point que je voulais amener aujourd'hui aussi, là, c'est que c'est pas non plus ces KPI-là doivent pas non plus être exclusivement ce qui va venir driver nos décisions. C'est un appui à nos décisions qu'on va aller chercher. Fait que oui, on va avoir des dashboards à terme qu'on va aller qu'on veut mettre en place. Mais c'est pas parce que présentement, vous avez pas tout ce data-là en main ou vous le suivez pas là, à tous les jours, toutes les semaines, que nécessairement vous êtes en retard. Là. C'est-à-dire, je pense que c'est normal aussi dans toute entreprise. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, de prendre un moment pour sortir des opérations, pour aller regarder un peu ce qui se passe dans le big picture de notre donnée. Ça vaut la peine de le faire, mais ça doit pas être non plus un aspect où est-ce que je vais m'empêcher de prendre une décision qui, à mon sens, fait beaucoup de sens pour ma clientèle, fait du sens, mais j'ai pas toutes les data encore pour prendre la décision, donc je m'abstiens. Pour moi, ça serait une grande erreur. Même qu'au niveau, tu vois, j'ai écouté un podcast la semaine passée au niveau de l'armée américaine, quand ils ont 60, en fait, c'est même pas vrai, excuse-moi, c'était au Big Bang de l'AQT. Un des conférenciers nous disait qu'au niveau de l'armée américaine, quand ils ont 70% du data sur un enjeu quelconque, ben ils prennent la décision d'aller de l'avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on n'est pas obligé en entreprise d'avoir tout le temps, tout l'ensemble des facteurs avant d'aller de l'avant. Du moment qu'on est rendu à 60, 70, 80, puis qu'on est confortable, puis que notre gut feeling nous dit « go, c'est la bonne décision à prendre », ben là, de pas la prendre, puis d'attendre encore et attendre encore, souvent, ce que ça va impliquer, c'est que tu vas manquer le bateau, tu vas manquer une opportunité, tu vas manquer ta décision en voulant la reporter pour avoir toutes le data en main avant de la prendre, ben il va être déjà trop tard. Fait que il faut pas que ça ralentisse les processus d'affaires non plus, tout ce qui est KPI, OKR, data, right?
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V, le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Ce que je dis souvent à ma gang aussi, c'est si on attend que tous les feux soient verts pour se rendre à l'épicerie pour faire son épicerie, on va mourir de faim tout le temps. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des lumières jaunes, des lumières rouges, mais il suffit qu'il y en ait quand même une série de manière positive, il faut avancer à ce moment-là. Fait que je pense que tu nous enlèves un petit peu d'anxiété, Max, là, parce que on a tous cette problématique-là dans nos organisations que le data des pour suivre nos KPI, il vient de plein d'outils. Faut rassembler la donnée. On avait des coachs aussi qui nous disaient une philosophie que je détestais pas trop, qui disait que le fait d'aller chercher la donnée dans un système et de le ramener dans un fichier Excel, l'aspect manuel, oui, ça prend du temps puis c'est lourd, c'est routinier, mais ça fait vraiment réfléchir les gens. Là, quand tu mets ton chiffre dans la case du fichier Excel pour le rapporter dans une place centralisée, souvent les gens vont beaucoup plus réfléchir puis porter action que si la donnée leur était poussée dans un tableau automatisé. Il y a cet aspect-là où je me pose toujours la question, on automatise ou on garde ça manuel pour ce petit gain-là? Là?
Ben, c'est un super bon point. Puis à un moment donné, c'est la même, par les rapports automatisés, il y a une raison pourquoi qu'on n'automatise pas tous les rapports, parce que évidemment, ça suit ta ligne de pensée. Si tu reçois des rapports tout le temps, à un moment donné, comme toutes sortes d'emails qu'on reçoit, on les regarde plus. T'sais, ils sont là, on les voit arriver, on va les regarder 2-3 semaines. Ah, intéressant. Puis whoop, à un moment donné, ils vont juste rentrer dans la boîte de courriel, puis c'est fini, on les regarde plus. Fait que j'aime bien ton idée de dire de se forcer manuellement d'aller chercher ces chiffres-là. Ça nous permet évidemment de pas tomber dans ce piège-là, peut-être, au niveau des chiffres.
C'est plate parce qu'on est tous des gens souvent qui n'aiment pas la routine, donc c'est toujours difficile de se forcer d'aller chercher la donnée, donc ça, c'est l'autre enjeu.
Ben, déjà, là, oh, excuse-moi, déjà, si avant de prendre une décision, on se pose la question, est-ce qu'on a du data pour le backer? Mais de façon systématique, là, de façon très disciplinée, là, de dire avant d'aller de l'avant avec telle décision, puis des fois ça peut aller très très vite, là, juste de dire hey, on a-tu du data pour se backer sur telle affaire, allons voir, puis rapidos, on fait le tour, puis on y va. Mais je pense que déjà d'avoir la discipline de dire act on data, c'est-à-dire de se donner comme mandat avant de prendre une décision, de se poser cette question-là, je pense qu'il y a déjà un très bon bout de chemin de fait.
C'est un bon point. Question pour toi, je vois l'enjeu dans beaucoup de startups, je serais curieux de voir si vous avez ce même enjeu-là, puis si vous avez trouvé un contournement à ça. Les KPI qu'on vient de parler, c'est beaucoup les KPI qui sont souvent rattachés à Google Analytics, on les traite dans Google Studio, Looker et compagnie. Mm-hmm. C'est beaucoup des tags qui ont été mis manuels à certains endroits, qui fait que ouais, l'humain peut avoir pas bien programmé le tag, ou mm-hmm, le site web a changé, ou l'actif web mm-hmm a changé. Et ce qui ouais fait que, moi, en tout cas, exemple dans Berrycast, quand on regarde, on a tout centralisé l'information dans un Power BI, puis des fois, on se dit, « Caroline, la donnée est-tu bonne? » Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis là, d'aller vérifier chacune des variables, chacune des données, et là, ça devient complexe, ça prend du temps. Puis je vais donner un petit truc après, ce qu'on a fait qui peut peut-être aider les gens, mais je suis curieux de voir, as-tu ce même enjeu-là pour ces KPI-là que tu viens de me mentionner? Puis, y a-tu un truc miracle pour ça que vous avez trouvé, là?
Il n'y a pas de truc miracle, c'est un enjeu qui est là, c'est-à-dire que on a toujours il y a toujours un petit doute à savoir, surtout quand on est à la position que je mentionnais tantôt. Nous, on est en train de faire le grand changement, de tout centraliser, donc on fait évidemment une passe de maintenance à travers les trackers qu'on a un peu partout, à travers, bon, on parlait de Google, Salesforce tantôt, mais évidemment qu'en faisant le grand ménage, bon, on pogne un paquet de d'erreurs qui s'est glissé au fil du temps, etc., etc. Moi, j'ai pas de solution miracle, sauf d'utiliser notre jugement en tant qu'être humain et dire, il me semble que ce donné-là, il y a quelque chose qui marche pas avec, il y a quelque chose qui me manque. Fait que ça, c'est de un. De deux, de regarder toujours l'historique, c'est-à-dire de, pis ça, tu vas me dire, ça fait plein de sens, mais souvent, quand tu dis, OK, il y a un chiffre qui fait pas de sens, moi, je vais aller regarder ce qui s'est passé l'année passée, par exemple. Puis là, je compare les deux, puis évidemment que je connais ma business, je connais notre modèle d'affaires, je connais la gang, je connais nos clients, je connais tout. Donc, je suis capable de dire, OK, l'année passée, y a-t-il quoi qui pourrait expliquer une hausse ou une baisse ou tant que ça? Puis là, ben souvent, ça va arriver à, ah, ben regardons ça. Évidemment, on a passé de, ça peut être n'importe quoi, mais Google Universel à Google Analytics 4, puis là, tout d'un coup, pouf, on a perdu notre donnée. Mais il y a une réflexion à aller chercher, toujours, pas se remettre en question, mais au moins d'avoir de se fier à notre bon jugement avant de donner toute la pesanteur à ces chiffres-là, je devrais dire. Fait que moi, de mon côté, j'ai pas de solution miracle. Souvent, on va rattraper un paquet d'erreurs en faisant cette maintenance-là que je te parle. Puis après ça, ben, comme je te disais, de s'assurer que t'es pas obligé d'avoir non plus. Souvent, le data, ce qu'il va te donner, c'est un trend. C'est une comment je te dirais ça? C'est pas le data en tant que tel qui est intéressant, c'est de le voir dans le temps qui devient intéressant. T'sais. Fait que même s'il n'est pas à 100% accurate, il est-tu assez bon, à mon sens, pour que on tombe dans une espèce de marge d'erreur de 5, 10, 15. T'sais, choisissez celui qui dans pour votre business qui fait du sens. Mais même s'il n'est pas à 100% accurate, mais que je traque toujours le même data dans le temps, pour moi, c'est suffisant pour prendre mes décisions.
C'est intéressant. Puis deux items qu'on a mis en place qui nous a beaucoup aidés. On a automatisé le R-Funnel dans Power BI de notre côté, donc beaucoup de connexions avec GA Universal dans le temps, maintenant GA4. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous posez la question, c'est quoi leur funnel, je vous renvoie à l'épisode numéro 6 où on en parle en détail. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, la métrique va changer dans les colonnes. Puis on fait, hey, il y a un petit quelque chose qui cloche. Puis là, on se dit, OK, comment qu'on l'a calculé, cette colonne-là? Puis là, ça devient complexe de dire, elle se base sur quelle autre donnée? Là, faut retourner dans le code. Là, on n'est pas sûr que c'est la bonne chose. Mm-hmm. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est que chaque colonne, quand il s'est basé sur 2, 3, 4 variables, on va, dans le nom de la colonne, mettre la formule, mais avec des lettres. Donc, si la colonne A est la colonne Z fois la colonne W, on va mettre dans l'entête, dans le titre de la colonne A, cette formule-là. Donc, on est capable de voir, OK, c'était quoi la formule pour cette colonne-là? Puis d'aller loin dans le tableau, aller chercher le data qui est la source de ce résultat-là, ce KPI final-là. Et là, on est capable tout de suite, un, d'enlever la problématique de c'était quoi la maudite formule, puis deux, on est capable de retomber tout de suite dans la source des données qui est à la base de cette formule-là pour voir est-ce qu'il y a une métrique qui fait plus de sens sur une de ces colonnes-là ou sur une de ces variables-là, qui fait, oups, on a un tracker ou on a quelque chose qui a été déraillé en arrière au niveau technique. Et ça, ça nous a enlevé tellement de temps d'obstinage entre nous autres de dire, je pense qu'il y a un problème, je suis pas sûr, là, faut mettre une tâche pour aller voir si la formule est encore bonne, la donnée est encore bonne, d'aller creuser la donnée à la source. Donc, on se ramasse avec un tableau avec plein de colonnes pertinentes au début, puis une série de colonnes à la fin que généralement on regardera pas ou qui vont être cachées, mais en les, pas les numérotant parce que c'est des lettres qu'on va mettre parce qu'on va se rendre à une quantité quand même assez longue, on est capable de refaire le chemin inverse puis aller valider d'où vient la source du problème puis de valider s'il y a un problème. Et ça, c'est un game changer dans ce genre de cas-là. Plus besoin d'un développeur pour aller creuser en arrière du tableau pour voir ce qui se passe. Fait que ça a été un bon gain qu'on a eu de notre côté.
Donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est que tu es en mesure de prendre le chemin que tu prends, dans le fond, dans le back-end, disons, là, pour aller chercher le data. Tu viens le mettre directement dans le visage des gens qui l'utilisent. Puis de là, c'est plus rapide pour vous d'aller voir exactement d'où ce que ça vient au lieu d'aller voir dans le query en arrière tout ce qui se passe, etc., etc., c'est ça?
C'est exactement ça. Puis le moyen de le faire simple, c'est en mettant des lettres pour les colonnes. Puis la formule, à ce moment-là, elle est très simplifiée. Fait que c'est A fois B ou A fois WZ ou A divisé par WZ. Donc, ça vient pas polluer tant que ça le titre, mais pour n'importe qui regarde le tableau, il est capable en une fraction de seconde d'aller voir y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas en arrière. Puis surtout de comprendre comment cette colonne-là, elle tu sais, comme, mettons, l'acquisition, c'est quoi la formule d'acquisition en arrière? Tu sais, il y a différentes manières de le calculer. Là, il est capable de faire par lui-même le chemin inverse sans déranger un développeur, sans poser plein de questions, puis sans rajouter une tâche dans le backlog. Fait que ça, c'est un petit truc qui nous a donné un gain dans ces genres de cas-là de tableau. L'autre item qui est intéressant, GA4 maintenant, puis tu connais plus que moi, Max, tu me corriges, là, mais j'ai vu qu'ils ont maintenant des snippets d'insight dans la page d'accueil qui va venir détecter des erreurs ou des anomalies dans les stats. Et là, nous, à date, exemple, on a changé le site pour OpenMind et là, on a vu des insights apparaître pour dire « Oh, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a une métrique qui devrait être à tel niveau, est complètement dehors de la moyenne. » Et là, ça nous a permis de valider s'il y avait quelque chose qui était problématique. Donc, juste la page d'accueil de GA4 avec les insights qui sont là va donner des petits indices s'il y a quelque chose qui est déraillé en arrière dans les trackers puis dans les métriques qui sont normalement sur une certaine tendance. Donc, c'est deux petits trucs qui peuvent être intéressants. Là.
Effectivement. Puis juste pour peut-être donner un peu de perspective là, à tout le monde, Google ont changé drastiquement leur façon avec Google Analytics Universal qui est maintenant Google Analytics 4. Donc, si vous, ce qu'on dit, vous le voyez peut-être pas, vous n'êtes pas encore en mesure d'avoir fait le switch, je suis pas au courant exactement si ça a été enforcé. Je sais que l'année passée, au mois de juillet, je pense que c'était le deadline à savoir si Google nous donnait jusqu'à juillet 2023 pour faire le changement. Je sais pas à quel point que ça a été adopté assez massivement pour qu'il ferme carrément, là, mais c'est de quoi de regarder déjà de votre côté. Si c'est pas fait encore, peut-être à regarder avec votre gang à savoir est-ce que nous aussi on est rendu sur Google Analytics 4, parce que Universal va être deprecaté éventuellement, là, c'est pas déjà fait. Donc,
je pense que c'était en juillet qu'ils forçaient, 1er juillet 2023, mais ils l'ont repoussé par la suite parce que nous, on a des trackers qui ont arrêté d'être suivis dans les 2-3 dernières semaines en même temps qu'on changeait de site web, qu'on faisait notre nouveau facelift. Et là, j'ai dit à la gang, oh, là, les insights nous donnent des erreurs. Ils disent, OK, non, c'est des trackers qui étaient dans l'ancien, qu'il fallait recréer dans le GA4 qui a causé la problématique. Donc, voilà, on est pas mal dedans.
Ben, ouais, effectivement. Puis, tu sais, on parle beaucoup de Google Analytics, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de données à travers vos sites web qui sont évidemment dans cet outil-là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de mettre en place, tu parlais des insights que Google va vous envoyer automatiquement, mais en termes de filtres à mettre sur vos visites, bien déterminer quel channel, de où est-ce que votre trafic va arriver finalement, de façon organique, de façon tout ce qui est direct, par des sites de référencement, par les médias sociaux. Il y a déjà beaucoup à faire juste là. Ça peut être même un épisode à part entière juste sur Google Analytics, comment bien gérer notre outil pour traquer l'ensemble des KPI au niveau marketing très web.
J'en prends note, absolument. Donc, on vient de parler l'aspect marketing, donc c'est beaucoup le côté lead, visiteur, combien de leads qu'on est capable de flipper à l'équipe de vente.
Ouais. Ben, tout ce qui est conversion rate à travers vos sites. Donc, est-ce qu'on parle de conversion rate à travers vos différentes campagnes? Est-ce qu'on emmène du trafic sur nos pages? Mais une fois que le trafic est arrivé sur nos pages, à quel point les gens vont venir demander un trial, requester un démo, puis ils vont prendre action sur votre site finalement? C'est un taux, celui-là, c'est un des ceux à traquer, un des plus importants parce qu'on peut emmener beaucoup de trafic sur nos pages, mais si en bout de ligne, on n'est pas capable de capter cette auditoire-là puis le faire passer une action, je te dirais qu'on manque beaucoup de... On dépense des énergies, des efforts, de l'argent pour rien, finalement. Donc, le conversion rate, excuse-moi. Tout ce qui est sinon, quand on travaille beaucoup avec du email, avec différentes campagnes d'automatisation, avec... ça peut être en ad, vous allez voir beaucoup de click-through rate, CTR évidemment, qui va traquer le nombre de fois que les gens ont vu votre publicité, votre document, votre lien, puis à quel point que les gens vont cliquer sur ce lien-là. Donc, c'est un autre gros nouveau marketing, évidemment, à traquer comme il faut. Tu l'as mentionné, tout ce qui est marketing qualified lead qu'on envoie aux ventes, puis j'en profiterai aussi pour... ce qu'on définit comme un lead qui est qualifié au marketing, qu'on va envoyer dans le funnel des ventes, puis ce que les ventes vont recevoir dans le funnel, puis eux vont qualifier comme un sales qualified lead aussi, qui sont deux bons KPI à suivre de très près, parce que ça se pourrait très bien que dans l'automatisation par exemple, vous avez un outil, un logiciel avec des versions d'essai. Bon, ça se pourrait que vous envoyiez, il y a beaucoup de gens qui vont télécharger vos versions d'essai, par exemple, puis en bout de ligne, les gens de vente vont vous dire oui, ce que tu envoies au niveau des trials, mais sur 100 trials, par exemple, il y en a 25 qui sont vraiment prêtes, qui sont au bon moment pour acheter. Donc, il y a un jeu à aller faire avec vos gens de vente, par exemple, à quel moment on va transférer ces leads-là au département des ventes, parce que souvent, pour différentes campagnes, on va avoir plein de monde qui vont télécharger des versions d'essai, mais ne sont pas rendus au stade de parler à quelqu'un, ne sont pas rendus au stade non plus de nécessairement vouloir faire un achat, sont plus au stade de découverte, de awareness, de s'éduquer. Donc, on n'est pas encore... Il y a une ligne à les tracer là, avec vos différentes équipes, à savoir quand est-ce qu'on définit comme un lead qui est prêt à être envoyé aux ventes ou non.
Ça m'apporte deux questions. Je suis vraiment curieux là-dessus. Il y a une philosophie qui dit de qualifier nos leads par pointage, par action, puis quand ça atteint un certain minimum, là, ils sont prêts. C'est un lead chaud. Il y en a d'autres qui disent non, c'est vraiment une mauvaise théorie, puis il ne faut pas suivre cette philosophie-là. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous donnez des pointages par action à vos leads, puis vous traquez cette partie-là?
Pour l'instant, c'est avec les outils de Salesforce, on est encore en train de se poser la question à savoir est-ce qu'on a encore plus. On a ce qu'on appelle l'account grading chez nous. Donc, déjà en partant, t'as account grading, donc je cherche mes termes en français, là, je m'excuse, mais account grading qui est la portion de, c'est très bindé avec votre ideal client profile, votre client, aide-moi un peu, votre client.
Profil de client idéal.
Profil de client idéal, voilà, merci. Donc, déjà, partant d'aller grader cet account-là, c'est-à-dire que si vous êtes capable, vous, votre logiciel, votre outil, votre service s'adresse aux gens d'assurance du Québec, ben déjà, quand il y a un lead qui rentre chez vous d'une compagnie d'assurance québécoise, ça devrait déjà être flagué plus haut que une compagnie de manufacturière de l'Allemagne, par exemple. Donc, déjà, là, il y a une passe à faire sur dans vos différents outils CRM, ou même vous pouvez le faire de façon manuelle si vous n'avez pas un volume qui vous demande d'avoir des outils d'automatisation. Mais ça, c'est la portion, c'est qui mon client idéal, puis quand il rentre, je veux vraiment les flaguer ceux-là d'une manière X. Un coup qu'ils sont flagués, ensuite, là, on regarde à quel niveau ils sont rendus dans votre funnel, c'est-à-dire si, par exemple, il est allé sur votre plateforme de commerce en ligne hier, ben là, on se dit, OK, peut-être qu'effectivement, il est plus proche d'un achat qu'on peut penser à ce moment-là. Donc là, il y a une valeur qui est ajoutée à ce client-là, 10, 20, 30, 40, 50, tout dépendant de l'action qu'ils vont prendre. Puis à un certain niveau, habituellement sur 100 points X, là, puis ça peut monter à 3, 4, 500 des fois, là, selon vos cas. Mais oui, il y a un système de pointage qui peut être amené à ce niveau-là. Par contre, c'est beaucoup de configuration. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexion de business derrière à savoir qu'est-ce que finalement, télécharger un white paper, demander une version d'essai, est-ce que c'est vraiment là, à un niveau où est-ce que là, on va arriver à définir qu'est-ce que le client-là, il est bien prêt, puis c'est beaucoup de travail versus ce que je vous conseille, puis j'ai posé la question encore une fois au Big Bang la semaine passée ou là, deux semaines, il y a plusieurs outils d'AI qui s'en viennent, puis sont bref, vous les savez, sont là, mais il y a plusieurs outils qui vont être beaucoup plus performants que nous pour définir c'est quoi le profil type d'un client chez vous. Qu'est-ce qu'il fait selon... On va analyser 10 000 transactions chez vous, là, puis je vais vous dire pas mal précisément là, c'est quoi les actions que ces gens-là ont pris 90 % du temps. Puis des fois, je suis pas certain, moi, que nous, en tant qu'être humain, on va être aussi bon que la machine pour définir ces paths-là, finalement. Donc, moi, ce que j'ai dit à la gang, attendons encore voir si on met pas de l'argent ou du temps pour rien, parce que ces outils-là, je les sens qu'ils s'en viennent à maturité très rapidement, puis ça va être beaucoup plus intéressant, je pense, travailler dans cette optique-là que de le faire manuellement.
Ça va tellement accélérer la rapidité de filtrer, trier l'information, catégoriser, et ça va probablement augmenter la pertinence aussi de ce qui va ressortir comme résultat. Fait que les deux corrélés ensemble, là, ça devient un holy grail.
Ben, oui, puis en même temps, tant qu'à mettre autant d'efforts, tu sais, le temps est tellement important dans nos entreprises, que mettre une équipe à définir, tu sais, si on s'était parlé il y a 4 ans, on n'aurait pas le même discours, évidemment. Mais aujourd'hui, si vous êtes encore à vous demander est-ce que je vais mettre en place de façon manuelle du lead scoring chez nous, moi, j'attendrai un an certainement avant de prendre le projet. Mais bon, voilà.
C'est un bon point. Niveau marketing, est-ce que vous suivez votre coût par lead? C'est-tu quelque chose que vous faites? Ouais. Puis est-ce que vous le segmentez par canal d'acquisition aussi?
Non, on ne segmente pas par canal. Nous, on a le coût par lead, le coût par client, par cost of customer acquisition, le CAC ou le COCA ou... Customer Acquisition Cost. On le fait vraiment d'une manière très globale, c'est-à-dire, puis là, il y a aussi la... est-ce qu'on doit mettre les salaires des employés ou non? Il y a deux écoles de pensée là-dedans. Vous pouvez le faire selon le cost per lead, c'est-à-dire combien que ça me coûte envoyer un nouveau lead dans telle campagne au niveau des ventes, par exemple, au niveau des trade shows. J'ai 300 leads d'un trade show, il m'a coûté tant. J'ai envoyé 300 leads aux ventes. Combien qui ont closé à la fin? Est-ce que je mets les salaires de mon staff qui était là sur place? Est-ce que je mets tout l'aspect logistique? Donc, c'est à vous de définir. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dedans, là, à savoir, est-ce que, vu qu'ils sont déjà sur le payroll, est-ce que je vais mettre ce coût-là à travers mes campagnes? Peut-être pas, peut-être que oui, c'est à vous de décider. Mais dans la pure tradition, vous devriez mettre les coûts reliés à une campagne marketing en dehors des salaires. Donc, si vous dites j'ai investi 30 000 $ dans une conférence ou un trade show, il a sorti 300 leads de là. Faites une règle de 3, c'est assez simple. Puis de là, j'ai eu un taux de conversion de X. Donc, bon, vous allez avoir le coût d'acquisition d'un nouveau client à travers votre campagne qui s'appelle conférence X à Boston ou peu importe. Puis là, vous devriez être en mesure de le faire selon les différentes campagnes que vous mettez en place. Puis c'est pas tout le temps facile parce que des fois, il y a des campagnes qui coûtent pas grand-chose en termes d'argent, mais qui coûtent beaucoup, beaucoup de temps d'employés. Donc là, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de prendre le projet, de dire ça m'a coûté tant d'heures, ça m'a rapporté tant de leads, par exemple, tant de clients. Puis là, vous allez être capable de calculer assez rapidement votre cost per lead puis le coût de l'acquisition d'un nouveau client.
Et c'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais une discussion une heure avant l'enregistrement du podcast avec une personne dans l'équipe de leadership ici, puis... La catégorisation d'où vient le lead, c'est vraiment pas évident quand c'est pas du inbound, mettons, au niveau d'un site web en tant que tel, parce que, exemple, dans un trade show, c'est peut-être parce qu'il a vu 3 publicités avant sur Internet, qu'il a lu 3 articles de blog, là, il te voit dans le trade show, puis après ça, il contactera pas tout de suite ou ne donnera pas l'info au trade show, ça va rentrer par un formulaire après ça sur le web. Et là, comment tu le catégorises? Il y a toujours du flou avec ça, puis je pense qu'il n'y a pas de solution ou de réponse miracle. Nous autres, l'on brainstormait avec de dire qu'il faudrait mettre des multi-tags sur la provenance des leads pour être capable. Là, on arrivait dans une hyper... là, c'est de l'over-engineering.
Engineering. Mais oui.
Exactement. Ouais. C'est en plein ça.
Oui, mais je comprends... Ben écoute, je comprends très bien, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, jusqu'à quel point tu as besoin d'avoir cette finesse-là pour prendre une décision d'affaires, ça, je suis pas certain. La question se pose. Puis l'autre aspect que j'aime bien, le qui est très relié au coût d'acquisition d'un nouveau client, c'est le lifetime value d'un customer, le LTV en anglais, là, c'est, bon, ça m'a coûté, on va dire, 3 000 $ aller chercher un nouveau client, mais sur une période de 3, 4, 5 ans, il m'en rapporte, on va dire, 50 000, 60 000. C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant de mettre en comparaison ces deux ratios-là. Parce que toute seule, moi, je pourrais te dire mon coût d'acquisition d'un nouveau client qui était à 750, 800 $. Tu vas me dire, wow, tu sais, c'est super. Mais pour d'autres, ils vont me dire, ben moi, il est à 25 000, sauf que je vends des contrats à 3 millions. Fait que, c'est évidemment, il faut garder ça très... C'est un ratio qui existe, mais c'est pas un ratio qui se benchmark nécessairement facilement. Il y a des outils qui existent pour le faire, mais il faut que vous ayez trouvé vraiment dans ces outils-là une entreprise ou un marché ou une industrie qui est la vôtre, par exemple. Puis si vous voulez vous benchmarker là-dedans, je vous dirais, tu sais, c'est une grande épopée parce que vous devriez trier beaucoup d'informations avant d'arriver à un benchmark qui fait vraiment du sens pour votre entreprise. Mais celui qui fait vraiment du sens, à savoir combien ça me coûte aller chercher un nouveau client, puis il me rapporte combien sur 5 ans. Là, ça commence à être le fun dans ta barouette de travailler là-dedans, tu sais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir la finesse par campagne, par où est-ce qui est passé 3 fois d'avant, puis d'où est-ce qui est rentré la première fois. Parce que, évidemment, comme tu dis, on travaille en marketing, en vente, il y a beaucoup de brands là-dedans. Il peut t'avoir vu dans une conférence, il est revenu 3 jours après, il est allé sur Google, googler ton nom d'entreprise, pouf, il est rentré de façon organique par Google. Puis là, oups, tu viens de perdre toute la traçabilité de « ouais, mais il m'a connu dans une conférence finalement, fait que tu ne peux pas le traquer. » Puis ouf, ça devient dur, je te dirais, à bien segmenter tout ça. Tu as raison dans ce que tu dis. Mais quand tu le vois as a whole, de dire j'ai investi tant d'argent cette année en campagne marketing, j'ai eu tant de nouveaux clients, ils m'ont rapporté tant l'an 1, je pense qu'ils vont rapporter d'ici 3 ans tant. Pour moi, là, ça commence à être de quoi qui est plus facile à gérer puis qui fait plus de sens de toute façon à mon niveau, à moi, là, du moins, là, dans notre entreprise, au niveau du volume qu'on a à transiger. Fait que c'est un autre, j'imagine qu'il y a différentes écoles de pensée. Il y a des gens qui sont account-based marketing qui vont vraiment aller définir une campagne sur LinkedIn pour le réseau pharmaceutique. Dans le nord-est des États-Unis, j'ai mis 5 000 $ des campagnes, j'ai eu 4 leads. Donc là, ça vaut bien plus la peine de le faire, par contre. Quand tu es dans ce mode-là, là, tu as besoin de cette finesse-là. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les business models.
Et c'est peut-être aussi d'accepter une philosophie, puis c'est ce qui nous est arrivé dans les derniers mois, autant pour OpenMind, pour Dev2CO, puis pour Berrycast, d'accepter que c'est pas une action publicitaire qui va convertir le client, mais c'est exemple de 7 actions qui sont en parallèle, donc une pub Facebook qui cible le persona, un envoi courriel, un message sur LinkedIn, après ça, tu remarket avec une invitation pour un webinaire, t'envoies un podcast, puis là, quand t'es rendu généralement à 7 fois que tu as exposé ton message aux personas cibles, au ideal customer profile, mais là, ça se peut que ça convertisse, mais c'est l'ensemble de l'opération qui fait cette conversion-là. Donc, plus penser, comme tu dis, en mode campagne multi-canaux, et non juste je mets de la pub payante sur Google, puis combien que ça convertit ça. T'sais, il y a un petit peu plus large que ça à ouvrir la philosophie pour réussir à avoir une bonne conversion au final, mais de calculer son coût de conversion. Autre item que je suis curieux, le positionnement par mots-clés dans les moteurs de recherche, à quel point c'est important pour vous autres, puis vous surveillez ça? Est-ce que c'est une religion ou on le regarde de temps à autre ou c'est vraiment
c'est
by the book?
C'est un super bon point. C'est un très bon point. Nous, étant donné un certain volume là, de par nos outils, les solutions là, qu'on vend, la meilleure formule que nous, on a trouvée, c'est d'y aller vraiment là, avec... si vous en prenez là, au-dessus de 10... sais, 10, 15, 20, là, ça commence à être lourd. Là. C'est-à-dire que la meilleure façon pour nous de le faire, ça a été de traquer nos 10 meilleurs keywords, je dirais, là. Puis d'essayer d'optimiser nos sites, d'optimiser notre contenu, de vraiment builder là-dessus pour. Puis ça va, tu sais, on peut se donner des 6 mois à 1 an, là, de dire pour les prochains 6 mois, voici ceux-là qu'on va les traquer un peu plus, voici notre positionnement. Puis c'est très en ligne avec votre stratégie d'entreprise qui est globale, c'est-à-dire que si à tous les 6 mois, vous devriez, à mon sens, revoir un peu votre vision, votre mission d'entreprise. Pas de revoir tout l'ensemble de l'entreprise, mais dire au niveau du messaging, de la value prop, du positionnement, on est-tu encore spot on dans le marché? Est-ce encore le marché de changer? Y a-tu un nouveau message qu'on veut twister, qu'on veut apporter? Puis ça, c'est en lien avec vos campagnes au niveau marketing, comme tu le mentionnes, au niveau de tout ce qui est keyword. Il y a peut-être un nouveau keyword dans l'industrie qui est sorti que ça serait intéressant de traquer pour nous. Fait que c'est bon de faire cet exercice-là. Je te dis pas de le faire tous les mois, là, mais 1 à 2 fois par année pour s'assurer qu'on est tout le temps bien positionné. Puis moi, la meilleure formule, c'est avec SEMrush, par exemple, ou avec des outils comme Google Search Console. Ou il y en a des dizaines que vous pouvez traquer, évidemment, mais de se focusser sur une 10, 15 à 20 là, que vous le savez, qui est reflète bien l'industrie dans laquelle vous êtes. Vous connaissez vos clients, vous savez pas mal ce qui, en discutant avec eux, ce qui les a fait allumer, c'est-à-dire j'ai commencé à chercher une solution comme la vôtre. Donc, faut aussi mettre du jugement là-dedans parce que la machine, ce qu'elle vous renvoie, c'est pas toujours assez fin pour commencer à builder des campagnes à travers des mots-clés qui finalement n'ont pas tant à voir ou qui vont vous amener. Ça, c'est un bon point, là. Des fois, vous allez avoir beaucoup de trafic avec des mots-clés sur lesquels que vous allez traquer, mais le trafic que ça vous rapporte en conversion, c'est pas le bon monde. Le monde va chercher des items, ils vont arriver sur vos sites, ils vont downloader un trial, une version d'essai, peu importe, mais c'est pas votre client. C'est du monde qui cherchait d'autres types de solutions. Fait qu'il y a une finesse à les chercher, mais ça, c'est un danger avec les outils de Google, là, de « Hey, j'ai généré plein de trafic, j'ai un paquet de keywords, ce keyword-là, il est vraiment, vraiment fort chez nous, puis regarde le nombre de trafic, on est bien, notre domaine, il est bien coté, page authority au fond, on sort dans le top 3, c'est vraiment super, le taux de conversion, il est bon, puis on n'envoie rien aux ventes après ça, parce que c'est tout du unqualified, c'est tout des gens qui sont là par erreur, ils cherchaient d'autres choses, le messaging n'est peut-être pas le bon dans vos ads, ou tu sais, il y a beaucoup d'aspects là-dedans à valider avant de dire si oui ou non. Ce keyword-là vaut la peine d'aller travailler.
Fait qu'il y a comme 2 catégories de keywords. Il y a les keywords qu'on a prouvés qui permettent de convertir, puis dans ce genre de cas-là, on veut préserver une position ou bonifier une position.
Ouais.
Et l'autre série de keywords d'exploration pour voir ce qu'ils vont convertir. Puis je peux donner un bon exemple en pay-per-click dans Berrycast. Au début, quand on a lancé l'initiative en pay-per-click, on se ramassait avec du volume puis de la conversion incroyable en nouveaux usagers. On s'est rendu compte que c'était tous des enfants entre 8 et 18 ans qui filmaient leur game de Roblox. Là, et tabarnouche, OK, ça coûte cher pour amener du load puis du trafic qui est inconvertissable en payant par la suite. Fait qu'on a mis cette méthode-là de côté parce qu'on attirait juste des jeunes qui voulaient filmer leur gaming, qui ils se faisaient rien avec l'enregistrement, mais qui mettaient un load incroyable sur nos serveurs de l'autre côté parce qu'ils enregistraient ça pendant 3 heures de temps.
God, c'est tellement une bonne histoire. Ça, c'est vraiment exactement ça qu'il faut regarder. Avant de se taper des mains puis de dire « Hey, regarde comment on fait un bon travail », ça cache des fois. Là, nous autres, moi, je me souviens au tout début de Devo, là, je te parle de 2012, 2013, 2014, notre logiciel phare qui s'appelle Remote Desktop Manager, j'avais un paquet de trafic qui rentrait de TV Remote, how to configure my TV Remote relié à la télévision. Là. Fait que j'avais un paquet de trafic déjà, parce que ces volumes-là, en plus, ce qui est pervers là-dedans, c'est que souvent, quand c'est des trucs qui... des keywords qui sont très consumers, je devrais dire. C'est sûr que les volumes de recherche explosent. En B2B, nos volumes de recherche à nous qu'on gère versus un volume de recherche pour la population, le consommateur, c'est facilement, tu peux arriver facilement avec un mot-clé, un keyword qui vient doper tes chiffres de la mauvaise façon parce que ce volume de recherche-là, dans le monde du B2C, par exemple, il y a beaucoup de recherches, des millions et des millions et des millions. mais c'est tellement pas ton persona ou le bon client que tu veux amener chez vous. Fait que ça, là, c'est des campagnes en négatif que tu dois mettre, là. Tu peux le faire dans Google AdWords, là. Tu peux mettre des termes en négatif, là. C'est-à-dire, eux, non seulement, je veux même pas les, je veux pas mettre d'argent dedans, mais en plus, je veux même pas que je show off dans les résultats, parce que ça m'amène un paquet de trafic que je veux même pas avoir chez nous. Ça me crée un paquet de calls au niveau des ventes qui sont pas qualifiés. En tout cas, ça l'amène là, vraiment un monde de, je dirais, de perte de temps. Puis, il faut vraiment analyser ces chiffres-là de la bonne manière.
Des faux positifs qui peuvent être négatifs sur l'énergie dépensée puis sur le budget au final, fait qu'à surveiller.
Ouais,
donc, est-ce qu'il y avait autre chose au niveau des KPI marketing que tu voyais avant qu'on transige à la catégorie vente?
Non, je pense que tout est... Il y en a plein d'autres, là. Mais non, écoute, c'est déjà pas mal si vous êtes capable d'aller chercher ce niveau-là.
Voici ce que je retiens de ma discussion avec Maxime cette semaine et trois catégories de KPI conçues. Premièrement, au niveau marketing, il y en a six qu'on a discuté. Volume de visiteurs sur nos différentes propriétés web. Le taux de conversion de ces visiteurs-là vers un but X, exemple une version d'essai. Le nombre de leads générés qu'on peut à ce moment-là envoyer par la suite à l'équipe de vente. Le coût d'acquisition client, donc le CAC. Le coût par lead, idéalement, si on est capable de l'avoir par campagne. Le positionnement dans les moteurs de recherche sur les mots-clés. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est un 5 étoiles sur les plateformes de balado que vous connaissez et que vous utilisez. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit 5 secondes, ouvrez votre téléphone mobile, allez directement sur la page du balado Pivot et mettez un 5 étoiles et un petit commentaire si jamais vous voulez nous encourager. Ça fait toute la différence. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies.